Ok, mais peut-être tu peux commencer juste par une introduction, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là.
Ouais. Bon, en fait, je m'appelle Modou Ngom. Mon nom, c'est Mohamed Ngom, mais toujours on me dit Modou. C'est plus facile à retenir. Bon, je suis sénégalais, j'habite à Dakar. Et je suis électronicien de profession. Ce que je faisais comme métier, c'est électronique, dépannage, réparation, tout ce qui est électroménager dans mon quartier.
Ok.
Maintenant, je suis animateur au Fab Lab de Kortiosan et responsable des machines et de la formation pour la compréhension des machines.
C'est ça. Oui. Et depuis tu travailles depuis longtemps pour Kortiosan?
Bon, en fait, officiellement, c'est en 2014 que je commence à travailler avec le Fab Lab, sinon dans le Fab Lab. Sinon, avant, ce que je faisais, c'est juste venir donner un coup de main à Kortiosan lors des organisations comme Afropixel ou bien s'ils ont une partenaire qui vient en résidence pour leur donner un coup de main pour souder des capteurs ou installer des fils ou bien des trucs, petites configurations.
Ok. Et comment es-tu rentré en contact avec Kortiosan?
Bon, en fait, comme je vous l'ai dit déjà, bon, je suis, disons, électronicien populaire qui travaille dans mon quartier. Et comme j'habite déjà dans un quartier vraiment populaire où les gens n'ont pas beaucoup de moyens, donc je faisais tout ce qui est réparation à partir de là. Bon, maintenant en 2010-2011, il y a Ecopol qui a organisé une formation qui concerne les électroniciens populaires. Parce qu'en fait, c'est lors des rallyes à Paris-Dakar, il y avait un conducteur de moto qui est décédé en chemin. Alors, comme il avait vraiment beaucoup envie de venir à Dakar, alors sa famille s'est organisée pour pouvoir faire quelque chose, une action vraiment à son niveau. Bon, après, à ce niveau-là, ils ont contacté Enda Ecopol pour qu'il organise une formation pour faire vraiment une chose à mémoire de ce défunt. Bon, alors c'est à ce moment que Enda Ecopol m'a contacté pour que je puisse venir suivre la formation. Bon, après avoir...
Et c'est qui exactement Enda? C'est un cours...
Enda, c'est une ONG qui travaille pratiquement sur beaucoup de domaines. Hein. Bon, c'est Enda Tiers-Monde. Déjà, Enda Tiers-Monde, il gère beaucoup d'activités. Il y a Ecopol, il gère pratiquement niveau familial, niveau consommation. Il y a beaucoup de choses, hein, parce que là, il faudrait vraiment après que tu te renseignes pour voir. En tout cas, c'est une chose grandiose qui a été dirigée par un Français qui est décédé. C'est, comment ça s'appelle, quand j'ai oublié son nom, bon, qui est décédé. C'est lui qui gérait pratiquement Enda Ecopol. C'était vraiment une lutte pour les personnes défavorisées qui n'avaient pas de moyens. Bon, qu'ils encadraient et essayaient de leur donner une façon de vie vraiment meilleure à ce qu'il était. Bon, alors, lorsque j'ai suivi la formation, après, en ce moment, comme Enda déjà travaille avec beaucoup d'ONG, c'est à ce moment-là qu'ils ont contacté Kortiosan pour leur dire que nous avons des gens qu'on a formés ici qui peuvent vraiment vous être utiles. Alors, lorsque Isunet était venu là-bas et ils ont travaillé sur l'extrudeuse et beaucoup de choses, là, en ce moment, ils ont fait appel à nous. Alors, nous sommes venus et leur donner un coup de main. C'est à ce moment-là, après la fin de l'atelier, ils avaient nos adresses e-mail, peut-être avoir aussi des notions de notre connaissance et notre profession. Bon, maintenant, en 2014, lorsque Kortiosan avait un projet de monter un Fab Lab, ils ont commandé des machines numériques, imprimantes 3D, CNC, mais en kit, qui étaient venues en pièces détachées. Bon, comme déjà, il n'était pas spécialiste à la matière, et c'est Olivier Henry de France qui avait commandé ce matos. Donc, il avait vraiment besoin de quelqu'un qui savait au moins faire l'assemblage. Quelqu'un qui vraiment soit un bricoleur ou bien un bidouilleur, n'importe qui. Et vraiment, c'est des choses aussi que je savais faire. Bon, je n'étais pas spécialiste en imprimante 3D, parce qu'en fait, c'était la première fois que je voyais une imprimante 3D. Mais comme ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur tout ce qui est bricolage, Bon, comme on le fait nous à Dakar, hein, bon, c'est pas des choses professionnelles où on l'a appris peut-être carrément à l'école, parce qu'à l'école, on a juste appris quelques initiations sur l'électronique. Donc, mais comme si vous êtes dans un quartier populaire avec des possibilités de recyclage, donc là, on faisait beaucoup de choses. J'ai réparé tout ce qui est tombé en panne dans le quartier. Et tout ce qui avait envie aussi de bricoler, les enfants, tout ça, là, ils venaient dans mon labo pour essayer de me donner un coup de main. Donc, c'est vraiment des choses que je savais faire, surtout travail à la main. Donc après, bon, ils ont fait appel à moi et je suis venu en ce moment et je les ai accompagnés pour l'assemblage des machines. C'était prévu de le faire environ une semaine et environ 3 jours, on a pu y rassembler tout parce qu'en fait, c'était vraiment rapide, quoi. C'était vraiment des choses que je savais faire. Alors en ce moment, ils ont dit donc pourquoi ne pas faire appel à moi pour que je puisse au moins les accompagner au Fab Lab. Bon, après, ils m'ont proposé de venir leur donner un coup de main, alors ce que j'ai accepté automatiquement, parce qu'en fait, moi aussi, bon, c'était pas à ce même niveau, c'était pas par rapport à l'argent ou autre chose, mais c'était moi aussi, bon, je suis un gars, vraiment une personne curieuse qui veut comprendre tout. Chose, bien que je n'ai pas de la possibilité. Et je fais aussi bon, partie des gens qui n'ont pas de beaucoup moins, ou les parents aussi n'ont pas de beaucoup moins pour leur payer des formations coûteuses. Donc, alors, je me suis dit, donc, moi aussi, c'est une occasion au moins de comprendre le fonctionnement de ces machines. Donc, c'est à ce moment-là que je suis venu, je les ai dit, OK, ça marche. Alors, je suis venu au Fab Lab et j'ai commencé à travailler avec eux.
Et tu as laissé ton labo derrière?
Bon, le début, en fait, je travaille du lundi au vendredi, parce qu'en fait, là aussi, bon, ils ne m'avaient rien obligé, ils me demandaient seulement d'être présent si j'ai le temps. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon labo, et là aussi, vraiment, pour te dire la vérité, là-bas, vraiment, je gagnais jusqu'à à un moment, parce qu'en fait, là aussi, si tu es passionné de quelque chose, à un moment, vraiment, j'arrivais vraiment à avoir au moins, c'est vraiment de l'argent, j'arrivais vraiment à gagner au moins 700 à 500 000 francs par mois. Donc là, je me sortais vraiment bien, quoi. Bon, lorsque Kurtosan m'a demandé de venir, bon, alors moi, je n'ai même pas cherché à réfléchir, parce que je voulais seulement comprendre le fonctionnement des machines. Bon, alors, bon, Marion m'avait dit que là, tu as la possibilité de venir si tu veux. À tout moment, quoi. Bon, pour déjà aussi, tu as ton labo, tu es responsable de la famille, donc tu peux venir bon, si tu as le temps. Donc là, j'ai commencé, je venais du lundi au vendredi, de 10h déjà à 14h, et les après-midi à la maison, j'essaie maintenant de travailler, et les week-ends. Bon, mais après, pendant presque 1 ou 2 mois, après, ça a devenu un peu compliqué pour moi. Parce qu'en fait, déjà, tu sais, un novice qui vient sur des machines qui ne comprennent pas. Olivier aussi, qui était là pour nous accompagner, n'a resté pratiquement que le temps de démarrage des machines. Donc après, il est reparti. Donc c'était vraiment, vraiment très, très compliqué. Chaque jour, on était pratiquement sur Facebook, sur, comment dire, sur Google, pour pouvoir trouver des informations pour comprendre les machines. Là aussi, j'étais avec Doji, qui est un ancien développeur. Lui aussi, il a fait ses formations au management. Donc, les machines aussi, c'était vraiment pas sa spécialité. Donc, on était en train de rechercher, de voir connecter sur certains réseaux pour avoir certaines informations. Donc, on restait au Fab Lab jusqu'à tard dans la nuit, des fois jusqu'à 1h. Bon, 18h, Virgile descendait, mais moi, d'habitude, je restais jusqu'à 1h, 2h du matin en train de contacter des personnes pour avoir certaines informations. Finalement, je ne pouvais pas continuer les deux activités. Après, bon, j'ai laissé tomber pratiquement le labo que j'avais chez moi. Donc, après, pourquoi? Parce que vraiment, j'avais vraiment envie de me mettre à fond et de comprendre le fonctionnement de ces machines. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, là aussi, je ne sais pas, mais c'est vrai, vraiment, c'était très dur hein, parce qu'en fait, je n'avais pas de sous, c'est compliqué. Là, bon, j'étais vraiment volontaire au Kurtosan. Bon, je travaillais là-bas, bon, comme ça, bon, avec ce qu'on me proposait, c'était uniquement quelque chose qui assurait le transport. Donc, c'était vraiment très, très, très compliqué. Bon, peut-être c'est la première fois que je vous le dis, mais ça me passait. Je restais là-bas des fois, des jours sans manger, sans prendre le déjeuner de midi. Franchement, tellement que je n'ai gagné rien du tout. Il m'a serré. Pratiquement, ce que j'ai gagné, c'était uniquement pour le transport. Des fois, donc, pour venir même au Fab Lab, c'est ma mère que j'ai demandé de l'argent pour pouvoir venir. Tu vois que c'est très compliqué. C'est des choses que je ne raconte pas souvent. Parce qu'en fait, j'étais très motivé. Après, bon, On se posait même des questions hein, à la famille pour dire, bon, pourquoi je me casse la tête là-bas, quoi? Comment quelqu'un qui est déjà responsable, qui vit avec sa famille, j'ai mes soeurs qui sont là, mes nièces, et c'est moi qui assure tout. Même les études, tout ça, là, c'est moi qui le paye. Comment se fait-il que quelqu'un qui est comme ça, qui est son labo, bien connu, pour laisser tout tomber à cause d'un truc, bon, peut-être, bon, c'est des, il gagne des choses, ou bien vraiment, il gagne des trucs, bon, soit il nous cache quelque chose, quoi. C'est vraiment ça qu'elle pensait au début. Parce qu'il n'arrivait vraiment pas à comprendre ce qui me motivait pour que je puisse être au Fab Lab. Donc, même moi aussi, bon, je ne comprenais pas. Hein. C'était pour moi simple motivation, mais rien d'extraordinaire. Parce que vraiment, je ne gagnais rien du tout, franchement, pour nous. Donc, c'était ça. Après, en septembre 2014, bon, je suis parti à Nantes pour participer à la documentation des Fab Labs. Là aussi, bon, on me l'a proposé, j'ai accepté. C'est toujours sur ce lancer-là que c'est pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, là aussi, ce n'était pas évident du tout. Parce que les Fab Labs, nous, en Afrique, on ne les connaît pas. Donc, imagine que quelqu'un qui est électronicien, d'accord, qui comprend l'électronique, le fonctionnement des machines, mais tout ce qui est logiciel informatique, là, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, d'accord, on y va. Après, bon, là-bas, on a passé environ 8 jours, une semaine, pour faire la documentation sur les Fab Labs. Ça nous a permis au moins de comprendre un tout petit peu et de pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes et aussi de tisser un réseau. Là aussi, c'est vraiment ce qui était important pour moi en ce moment-là, c'était ça. Au moins, là, on a rencontré des gens qui sont venus du Canada, d'autres de France et en Afrique, ce qui nous a permis au moins vraiment de tisser un réseau et de pouvoir aussi de continuer à contacter, à travailler avec eux. De ce fait, après, si j'ai quelques problèmes, j'envoie un mail pour leur dire non, ceci vraiment, j'ai un problème avec la machine, je veux faire tel, j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire? Là, au moins, vraiment, ça a commencé à venir. Bon, à ce moment-là, ça commence vraiment à changer un tout petit peu. Bien que je ne gagne toujours pas de l'argent, mais au moins, je commençais à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant. Bon, après, fin 2014, après, Dodji est parti, est rentré, parce qu'en fait, lui aussi, c'était un volontaire de la francophonie. Donc, il a été payé par la francophonie, mais pas que... Bon, il avait un contrat avec Kurtzson, mais vraiment, c'était un volontaire de la francophonie. Donc, il travaille pour la francophonie. Donc, après sa fin de formation, il est reparti. Après, vraiment, en ce moment, j'étais seul au Fab Lab. Donc, tu vois que donc, ça devient plus compliqué. Là, je travaille jusqu'à 2h, 3h du matin au Fab Lab pour essayer au moins de comprendre la machine. Même il s'est arrivé un temps, peut-être ça aussi, c'est des choses que je ne dis pas, mais même Marion, peut-être, et le président de Kurtzson se posaient des questions. Qu'est-ce que je faisais au Fab Lab jusqu'à cette heure-là? Peut-être c'était pour mes propres trucs ou bien des choses. Parce qu'en fait, là, ils ne comprenaient pas. Imagine quelqu'un qui n'a pas une formation sur les machines numériques, qui se retrouve seul et qui est censé donner des formations ou bien que faire comprendre à d'autres personnes le fonctionnement de ces machines. Et ce gars-là, lui, il n'est pas formé. Il n'est pas vraiment, vraiment au top. Là, c'est tout à fait compliqué et difficile. Là, on te demande des résultats et tu es obligé de donner des résultats. Imagine, essaye d'être en place et voir ce que je ressens. Vraiment, ça me choquait, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des formations pour des enfants. Il y a des gens déjà qui commencent à prendre des cartes d'adhésion et qui viennent au Fab Lab pour comprendre le fonctionnement de ces machines. Et moi, vraiment, j'ai des notions très limitées. Donc, qu'est-ce que
et
je dois faire?
Tu ne pouvais pas expliquer ça à eux?
Oui, mais je l'ai expliqué. Mais bon, aussi, c'est des profanes, ils ne comprennent pas. Bon, je suis... Parce qu'une fois, Marion m'a dit ça. Tu es parti en France, tu as suivi une formation, je ne sais quoi. Mais là, ils ne comprennent pas. C'était sur la documentation. Documentation qui n'avait rien à voir avec la machine. C'était seulement documentation. On te dit que tu dois documenter là, comment dirais-je, ton travail. Bon, si quelqu'un vient chez toi, essaye au moins. Si vous faites des trucs, n'importe quoi, essayez de le documenter. Essayez de s'organiser, avoir une base de données pour que prochaine fois, si quelqu'un vient au moins à partir de ces bases de données, puisse comprendre des choses. C'était ça. Ça n'avait rien à voir avec faire de l'huile, faire des deux quand même. Vous vous rendez compte? Donc après, c'était très, très, très compliqué. Ils ne comprennent pas. Et jusque-là aussi, hein, ils ne comprennent pas. Heureusement, bon, pour nous, on a écrit plus d'expérience avec la motivation. Mais vraiment, c'est... Ils sont carrément... Ils ne comprennent pas vraiment exactement ce qui se passe, quoi. Franchement. Bon. Après, bon, aussi... Je me suis continué sur ça. Lorsque j'ai entendu ça, ça m'avait un peu frustré. Après, bon, je me suis dit, non, là, vraiment, je ne comprends pas. Après, bon, si je travaille jusqu'à 16 heures, après, je descends, je rentre chez moi. Après, j'essaie de continuer maintenant chez moi, de faire des recherches, comme déjà, j'ai la connexion là-bas. Mais ce n'était pas facile du tout. c'était pas facile du
et
tout.
Et comment tu survis alors, si tu n'as plus ton laboratoire et tu travailles tout le temps bénévolement pour Kertiozen?
Oui, en fait, après, après en 2015, ils m'ont proposé pratiquement de me faire un contrat, mais toujours avec le minimum, parce qu'en fait, ils me disaient que vraiment, ils n'avaient pas assez de moyens. C'était juste pour assurer le minimum. Après, c'était peut-être mon manger, mon transport, tout ça comme ça. Et c'est à vie, après, c'est ça. Hein. Après, j'avais un contrat pratiquement minimum, pratiquement. Je n'ose pas vous dire la somme. Et c'était bien, oui. Après, je suis continué comme ça. Parce qu'en fait, le problème aussi est que peut-être c'est pas de leur faute, mais peut-être c'est de ma faute. Parce que là aussi, je veux toujours assumer mes responsabilités. Parce que lorsque Kertiozen m'avait demandé, de travailler, et en même temps, ils m'avaient dit que vraiment, on ne te propose pas un salaire. Moi, je leur ai automatiquement dit que je ne suis pas venu pour chercher de l'argent. Mmh. Ça, vraiment, je l'assume. C'est moi qui l'ai dit. Donc, après, si on me donne même 10 000 francs ou 30 000 francs, je l'accepte. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai dit. Bon, après, arrivé en 2015, Marion m'a proposé maintenant de me faire un contrat, toujours avec un minimum. Et c'est évidemment, je reconfirme ma principe en leur disant que vraiment je ne suis pas venu pour de l'argent. Donc jusque là c'est comme ça quoi. À chaque fois c'est eux qui décident, qui me proposent un truc, et vraiment je n'ai pas de vision là-dessus, parce qu'en fait comme déjà c'est moi qui avais accepté de venir travailler bénévolement, donc je ne pourrais pas demander quoi. Bon, pour moi, je suis dans cette philosophie. Bon, je continue jusque-là. Bon, maintenant, en 2015, oui, au Forum mondial de la langue française, là aussi, je suis participé comme porteur de projet. Là aussi, après le voyage, ils ont cru que là aussi, c'est beaucoup d'expérience ou beaucoup de choses qu'on a acquérir là-bas, que c'était vraiment pas ça, c'était juste aller et présenter des choses. Donc, c'est un peu compliqué pour moi, franchement. Mmh. Bon, après, début 2016, bon, comme Doji déjà ne faisait plus grand-chose, bon, après, il avait demandé de venir retravailler avec Kertiozen. Après, Kertiozen a accepté et après, peut-être, je ne sais pas, ils ont discuté pour que Doji puisse retourner au Fab Lab. Bon, il est revenu au Fab Lab. Là, au moins, ça me soulage un peu. Raison pour laquelle, je suis là et je reste quelque temps. Ce moment, c'est lui qui gère pratiquement le Fab Lab. Mmh. Oui.
Et vous donnez beaucoup de formations au Fab Lab?
Oui, en fait, tout ce que nous faisons au Fab Lab actuellement, c'est surtout ça, hein, c'est la démystification des machines numériques, c'est-à-dire la formation en formant les enfants de bas âge qui ont entre 4 et 15 ans et les adultes, de les former, de les expliquer comment fonctionnent les machines. Ce que nous avons pour le moment, c'est ça. On le forme sur les machines, l'imprimante 3D, les fraiseuses numériques. On n'a pas encore de découpe laser.
Donc, et l'ordinateur aussi, alors, j'imagine.
Et l'ordinateur. Et l'ordinateur, bien sûr, parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu compliqué là-bas en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Donc, d'abord, on les initie pour qu'ils comprennent d'abord avoir quelques notions, parce que nous aussi, nous ne sommes pas très, 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 très calés à ce niveau. Nous avons des compétences vraiment très limitées. Donc, on leur explique seulement l'interface pour qu'ils puissent au moins comprendre le logiciel, comment utiliser le logiciel, comment utiliser certaines touches. Donc c'est ça quoi. Après on passe maintenant sur la pratique en utilisant des logiciels pratiquement très faciles à comprendre pour pouvoir faire quelques modélisations, quelques dessins, soit de passer par SketchUp ou bien de passer par Inkscape, de faire quelques trucs basiques. Et après, on fait la conversion en vectoriser le truc et passer par un logiciel de G-code, générateur de G-code, et faire le fichier. Donc, pour le moment, c'est ça que nous faisons. Avec les enfants aussi, c'est la même chose. On essaie seulement de leur apprendre à fabriquer, exemple, à faire des choses, soit leur propre jouet, avec des trucs basiques. Bon, toujours avec SketchUp, de faire soit des boîtes ou bien de faire un bonhomme ou bien de faire des trucs vraiment basiques après et de le faire avec l'imprimante 3D. Donc, pour le moment, c'est là où est-ce que nous sommes. Bon, maintenant, j'ai oublié la date exacte, mais en fait, il y a la BICIS qui avait organisé une expo au musée de l'éléphant là-bas, vraiment aussi bon, et il avait demandé aussi à Kertiozen de l'accompagner, c'est-à-dire de gérer les animations et les ateliers. Bon, à ce niveau-là aussi, bon, Kertiozen avait trouvé des partenaires, des makers, bon, pour pouvoir au moins se gérer différents ateliers. C'est ça qu'on a pu faire et qui nous a vraiment porté bénéfice. Là, c'était des makers qui travaillent pratiquement sur des petites bricoles qu'on faisait manuellement, avec aussi des tisserands des tisserands qui étaient là, et aussi bon, deux makers qui étaient là. Bon, en fait, après, ils ont fait appel à nous pour qu'on puisse animer niveau Fab Lab, c'est-à-dire tout ce qui est initiation en électronique, un peu de programmation avec Arduino et des démonstrations sur l'imprimante 3D et peut-être sur des recyclages comme ce que nous faisons, des bidons qu'on transforme en ordinateur et des calebasses qu'on transforme en un ordinateur avec des pièces recyclées. Donc c'est ce genre d'atelier-là qu'on en fait. C'est vraiment des choses qu'on sait faire. Parce qu'en fait, ça fait un bout de temps que je travaille dessus. Comme déjà, moi, j'habite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'habite dans un quartier populaire où il y a beaucoup d'enfants. Donc, je les regroupe et essaie de leur montrer comment ils peuvent comprendre ce qui se trouve au niveau de l'ordinateur. Donc, ça aussi, ce n'est pas un projet qui vient de Dakar, c'est un truc qui vient pratiquement de l'Europe. Ce qu'on appelle Jerrycan, c'est les bidons qu'on transforme en ordinateur. Donc, l'idée est venue là. Bon, après, comme on a déjà, il y a un groupe qui est à Dakar qui s'appelle Jerrycan Sénégal, que je fais partie, qui est basé au Fab Lab. Bon, on s'est dit donc, pourquoi continuer à travailler sur des bidons? Et nous, à Dakar, nous avons pratiquement des choses qui nous parlent mieux. C'est pourquoi je me suis dit, donc là, je vais essayer de travailler sur les calebasses. Alors là, j'ai commencé à récupérer des calebasses que je transforme en ordinateur. Là, c'est après, bon, vraiment, ça a porté un fruit parce que ça permet vraiment qu'il y ait plus d'engouement. Parce que les Sénégalais, bon, les enfants, les filles qui ne travaillent pas, au moins avaient plus la possibilité de venir participer aux ateliers qu'on faisait sur les calebasses que sur les bidons. Parce que là, vraiment, c'était un peu, c'était décoratif et puis ça leur parlait. Bon, là aussi, l'idée, c'était simplement aussi qu'ils puissent comprendre les ordinateurs, le fonctionnement des ordinateurs et aussi de pouvoir bricoler un tout petit peu. Parce qu'en fait, l'idée aussi n'est pas aller jusqu'au terme. Parce qu'en fait, moi, lorsque je l'ai fait, j'avais une idée et je l'ai proposé à Kirchhoff. C'est-à-dire, bon, à Dakar, nous avons déjà des femmes de ménage qui travaillent dans les maisons et qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc, elles travaillent à la fin du mois. On leur paye des salaires vraiment minimes, avec peut-être 20 000 francs, 25 000 francs. Donc maintenant, si la femme de ménage tombe malade, donc elle n'a plus de ressources. Si elle est enceinte, elle n'a pas de ressources. Donc, j'avais proposé à Kirchhoff qu'on essaie de regrouper ces femmes de ménage et essayer de les former sur tout ce qui touche à l'outil informatique. Pour au moins, après, qu'elles puissent au moins avoir une formation. De ce fait, même leurs heures disponibles, parce qu'en fait, qu'elles travaillent du matin au soir, des fois, elles travaillent le samedi ou le dimanche, qu'on essaie de les regrouper et de les former. Donc, après, bon, selon le programme de Kirchhoff aussi, bon, peut-être on n'avait pas ce temps. Après, on n'a pas pu continuer, mais l'idée c'était vraiment ça, de pouvoir leur donner des formations pour qu'après au moins qu'ils puissent être indépendants. Ou bien s'il leur arrive quoi que ce soit, ils pourraient au moins essayer soit de faire autre chose. Donc, mais ce n'est pas arrivé en terme parce qu'en fait, Kirchhoff aussi a ses activités et vraiment ils sont débordés, donc ils ne peuvent pas faire tout à la fois. Mais l'idée vraiment c'était ça. Bon, après, bon, je travaille aussi avec les enfants où on a fait beaucoup de formations avec eux, surtout avec le recyclage. Bon, comme tu sais, les enfants qu'ils avaient dans des quartiers populaires, c'est des enfants qui savent bricoler, qui ont toujours cette manie, c'est-à-dire de travailler avec leurs mains. Donc, il y a les enfants qui arrivent actuellement à faire beaucoup de choses. Bon, qu'ils ont appris là-bas au Fab Lab. Là aussi, je les faisais venir au Fab Lab les mercredis après-midi. Bon, de 15h à 17h et pour les adultes les mardis et les jeudis. Donc ça aussi, bon, on l'a commencé, bon, mais toujours un peu compliqué avec l'espace du Fab Lab qui n'est pas immense parce qu'en fait là-bas nous n'avons que 4 mètres carrés, tu sais, c'est vraiment petit. Donc avec tout ce qu'on a envie de faire, surtout moi qui habite dans les quartiers populaires, donc après c'est...
Mais 4 mètres carrés, c'est 2 sur 2.
Voilà, c'est à peu près ça. C'est petit.
Et non. Qu'est-ce que vous avez dedans?
Dedans, nous avons une machine, une imprimante 3D, une fraiseuse numérique, deux fraiseuses numériques et deux machines de textile. Donc, les machines de textile aussi, l'idée, c'était de pouvoir former des filles. Là, c'est comme nous travaillons en partenariat avec un centre social, socio-éducatif, qui est juste à côté du Fab Lab. Là aussi, on leur permet d'utiliser ces machines de textile parce qu'en fait, il y a Claire Williams de Belgique qui était venue en 2014 avec deux machines, c'est des machines, les anciennes machines, avec aussi deux machines 217 de machines, nouvelles machines. Bon, alors il a, on a fait un atelier là-bas avec le centre socio-éducatif où les participants, c'est-à-dire les élèves qui sont là, ont pu vraiment acquérir beaucoup de compétences là-dessus. Après maintenant le départ de Claire Williams, l'idée c'était que, qu'ils puissent venir deux fois par semaine et transmettre le savoir à d'autres personnes. Mmh. Bon, c'est ça que nous continuons. Maintenant, l'idée aussi c'était d'insérer ce que je vous avais dit tout à l'heure, les femmes, les bonnes, les femmes de ménage. Mais là, vraiment, ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'est ce que je vous dis. Bon, Kurtchesan a beaucoup de programmes et beaucoup de choses. Mais là, vraiment, mon idée à ce moment-là, c'était vraiment ces personnes-là, parce que moi aussi, vraiment, je voudrais que ces personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'on essaie de les encadrer et de les accompagner. Parce que je vous l'ai dit, hein, c'est pas surtout quelqu'un qui vit dans un milieu, bon, qui connaît les réalités de la population, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, donc, l'idée, c'était vraiment de les accompagner et de leur faire venir au Fab Lab pour qu'on puisse leur former, même sur le textile. Là, c'était vraiment bénéfique. Mais tu sais, bon, on a beaucoup de programmes. L'espace aussi n'est pas large, donc on ne peut pas recevoir tout le monde à la voix.
Petit à petit.
Bon, petit à petit aussi, Kurtchesan aussi, tu sais, bon, c'est pas le Fab Lab en tant que tel, mais Kurtchesan déjà, c'est une ONG qui travaille déjà sur tout ce qui est l'art numérique et le multimédia, avec vraiment beaucoup d'activités. Pratiquement chaque mois, il y a une activité, donc des fois, c'est mélanger les deux, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas seulement le Fab Lab. Donc, c'est ça, quoi. On veut faire beaucoup de choses. Personnellement aussi, bon, moi, je voudrais vraiment faire beaucoup de choses, parce que moi, ce qui me fait mal toujours, si je vois quelqu'un qui habite dans une zone défavorisée, qui a besoin d'être formé et qui n'a pas les moyens de se former. Vous savez, des fois, c'est un peu compliqué. Et aussi, encadrer d'autres personnes et de les sensibiliser et de les informer surtout, pour qu'ils puissent être avertis pour ce qu'ils doivent faire demain, là aussi. C'est important, quoi. Et tu vois, bon, à Dakar, malheureusement, nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Nous avons deux types de populations. Ce qu'on appelle les gens connectés et ce qu'on appelle les personnes non connectées. Qui ne sont pratiquement pas informées. Qui ne savent pas ce qui se passe. Qui ne savent pas où trouver, chercher des informations. C'est compliqué.
Mais tu y travailles.
Non, on essaie. On essaie. Surtout des fois, les gens ne comprennent pas, c'est ça le problème.
Quels gens? Ceux qui sont connectés.
Bon, en fait, imagine si on fait, exemple, un appel au projet, ou bien un financement, ou bien on doit faire moins des personnes. Ça, la plupart des temps, les gens lancent les infos sur les supports, c'est-à-dire sur Facebook, sur Internet. Mais maintenant, ces gens qui ne comprennent pas l'outil informatique, est-ce que ces gens-là sauront où trouver les informations? C'est ça le problème. Maintenant, donc, ce qu'on appelle les personnes informées, les personnes connectées, eux, ils savent où se trouvent les informations. Donc, si tu leur lances un truc, n'importe quoi, ils sauront où le chercher. Ils vont venir participer. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont même pas au courant. Et pourtant, nous sommes tous des êtres humains et ces personnes-là devront être encadrées. Et au moins, bon, je me dis que ceux qui sont informés ou bien ceux qui sont dans certains endroits devront aller voir ces personnes qui ne sont pas informées, ces personnes qui ne sont pas connectées et de leur faire venir. Parce qu'en fait, tu sais, bon, c'est une personne qui n'est pas informée. Bon, pour moi, je me dirais que peut-être ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il ne sait pas où chercher les informations, parce qu'il n'est pas informé. Donc, c'est à la personne avertie qui doit se déplacer et de le faire venir et de le montrer le chemin, quoi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a... Pourquoi je suis en retard? C'est parce que je vis dans une famille avec des parents qui n'ont pas de moyens. Donc, déjà, moi, lorsque j'ai commencé à faire mes études au niveau CM2, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'arrivé au niveau CM2, après, bon, là, depuis le début déjà du CI au CM1, déjà, j'avais toujours des meilleures notes. Arrivé au CM2, déjà, bon, avec une fréquentation, bon, c'était un peu difficile dans des quartiers populaires, tu sais. Bon, là, j'ai échoué et mon père n'avait pas de moyens, ma mère non plus. C'est comme ça que j'ai quitté l'école. Je suis resté pratiquement 2 à 3 ans sans rien faire. Sans rien faire. Bon, après, bon, il y a ma mère qui a contacté un garagiste qui faisait la mécanique. Alors il a demandé pour que je puisse venir dans le garage et travailler pour ne pas être dans le quartier à traîner. C'est à ce moment-là que je suis venu.
Et tu avais quel âge?
En ce moment, j'avais normalement 15 ans. Non, moins de 15 ans, 13 ans. J'avais 13 ans, 12-13 ans. 12-13 ans, parce qu'en CM2, j'avais 10 ans et demi. C'était il y a 12 ans, 13 ans.
Et c'est chez le garagiste que tu as appris le métier d'électronicien?
Non. En ce moment, j'étais dans le garage pour apprendre le métier de peintre. Les gens qui peignent les voitures. C'est ça que je faisais. Comme tu sais, les garages qui se trouvent à Dakar, ils font tout à la fois. Il y a le mécanicien qui est à côté. Il y a ce qu'on appelle la tôlerie, celui qui fait tout ce qui travaille sur le métal, la carrosserie, et l'autre qui fait la peinture. Il y avait l'électricité, il y avait pratiquement beaucoup de choses à la fois. Donc à ce niveau-là, je commençais à faire la peinture, qui n'avait rien à voir avec ce que je fais actuellement. Donc, mais comme tu sais, bon, moi, lorsque j'étais dans mon quartier, même à Bahage, je faisais toujours des bricoles sur les radios, sur les trucs. Mais à ce moment-là aussi, on n'avait pas d'endroit pour me faire former à ce niveau-là. Parce qu'il n'y avait que les écoles de formation. Là, ce n'était pas à mes parents de payer ça, parce qu'ils n'avaient pas ce moyen-là. Donc, le garage, déjà, c'était environ presque 5 km. À cet âge-là, je marchais pour aller travailler. Au retour aussi, je marchais pour rentrer à la maison. Donc, je l'ai fait environ 4 ans comme ça. Après, à côté du garage, il y avait un gars qui travaillait dans un service comme électronicien. C'est lui qui réparait les jeux vidéo qui existaient au temps. Il y avait des jeux vidéo. Bon, c'est lui qui les réparait. L'atelier était géré par un Libanais. Non, par un Français. Après, il l'a vendu à un Libanais. Bon, comme le gars qui travaillait là-bas, bon, c'était vraiment un ami. Bon, comme chaque fois son voiture tombait en panne, il l'amenait dans le garage. C'est là où il se connaît. Bon, maintenant, à mes temps libres, j'allais le voir et on discutait. Alors, j'ai vu comment il travaille. Je lui donnais un coup de main. Des fois, lui donner un coup de main pour pouvoir mettre des vis ou bien ranger les outils. Bon, après, on discutait sur beaucoup de choses. Après, je me suis rendu compte qu'elle habitait juste derrière moi, environ quelques centaines de mètres après moi. Bon, après, il m'a proposé maintenant, à la descente, de me ramener chez moi. Donc, c'est à ce moment, les choses commencent à changer. Chaque soir, quand on descend, je nettoie la voiture. Après, on part ensemble. Arrivé chez moi, il me dépose. Après, il continue. Bon, après, vraiment, j'avais envie d'apprendre l'électronique. Et je ne savais pas quoi faire et je l'ai dit à ma mère. C'est ma mère maintenant qui l'a vu et elle a expliqué avec tout ce que j'ai vécu et toutes les souffrances qu'on vit dans la famille. Après, le gars a accepté que je puisse venir chez lui. Bon, venir à certaines heures, parce qu'en fait, comme c'était un service aussi, bon, je n'avais pas le droit d'être là toutes les heures. Donc, le gars avait problème, peut-être les heures de descente que je pourrais être là. Bon, maintenant, lui aussi, c'est un noctambule, un gars vraiment passionné de l'électronique. Il travaille jusqu'à 2h, 3h, 3h du matin. Donc, maintenant, si je descends au garage, je pars le voir. Et là, je reste jusqu'à 2h, 3h du matin. Et on a se coucher le lendemain, je pars au garage. Bon, après, finalement, je savais que ça ne pouvait plus continuer. Après, j'ai demandé au gars vraiment de laisser le garage et vraiment de faire l'électronique. Il m'a dit, donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est je vais essayer de prendre un magasin, pratiquement, qui n'est pas cher. Et là, tu vas rester à l'atelier. Essayer maintenant de te débrouiller, de faire tout ce que tu as envie de faire. Mais maintenant, à la descente, moi, je viendrai voir ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, c'est là où est-ce qu'on a ouvert un labo et a commencé à travailler avec le public. Maintenant, si quelqu'un a un appareil qui tombe en panne, il l'amène. Bon, je prends ses coordonnées, je l'enregistre, je mets l'appareil sur la table, je l'ouvre d'abord, démonte les vis, essaye de voir, de comprendre, bien que je ne comprenne rien. Mais maintenant, à la descente, il vient et me montrer, bon, mesurer ensemble, c'est ça qui ne marche pas, c'est ça l'alimentation, c'est ça la panne, et sa vie, me montrer, essayer de souder des trucs comme ça là. Bon, si l'appareil est réparé, bon, on ferme, on met la facture, tout ça là, après il part. Le lendemain, si le client revient, après, bon, je fais les tests et je lui remets l'appareil. C'est comme ça que j'ai commencé. Bon, après, bon, lui aussi, vraiment, c'était vraiment un gars vraiment très, très, très gentil. On a passé là-bas pendant trois mois. Pendant ces trois mois-là, bon, on a fait le bilan. on a vu qu'on a travaillé, il y avait un peu d'argent. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent, il m'a demandé seulement de payer la location et il m'a remis l'argent. Mm. Bon, je lui ai dit, mais maintenant avec cet argent, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce que je voudrais faire, c'est quoi? C'est d'abord de faire la formation en électronique. Mm. Donc, il m'a dit, d'accord, tu peux le faire. Alors là, je me suis inscrit dans une école de formation en électronique et j'ai commencé mes formations sur l'électronique. Le reste, je l'ai donné à mes parents. Mm. Bon, maintenant, j'ai commencé là. Chaque fin du mois, si on récolte quelque chose, je paye ma scolarité et je continue la formation comme ça. Mm. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'électronique.
Oh, wow.
C'est comme ça que j'ai appris l'électronique. Après, bon, nous avons travaillé là-bas jusqu'à pratiquement un an. Après, bon, dans mon quartier, comme il y avait un espace disponible, je lui ai proposé. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est là-bas, on a ouvert un labo. Il m'a dit, là, je crois que tu es en mesure de continuer. En tout cas, moi, je suis là disponible. Si tu as de tel problème, tu fais appel à moi. Mm. C'est comme ça que j'ai commencé à gérer un labo.
Mm-mm.
Alors, je me suis continué sur le lancer en formant les enfants, les gens qui avaient envie d'apprendre, qui se trouvaient dans mon quartier. C'est comme ça que je suis vraiment devenu populaire. Et finalement, les gens m'ont connu.
Et puis, tu as laissé.
Oui, actuellement, oui. Actuellement, oui.
Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, idéalement?
Dans 10 ans, dans l'avenir? Bon, en fait, moi, mon but, mon projet, ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de faire, ce qui m'est vraiment en tête, c'est de pouvoir avoir un espace où je pourrais former des enfants et les filles qui travaillent dans les maisons. Mmh. Moi, vraiment, mon seul souci, c'est ça. Et les personnes qui ont besoin de ces espaces-là, ou bien ces personnes qui n'ont pas de moyens, et aussi ces personnes qui n'ont pas d'informations, de ces informations, de les chercher et de les informer pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent être formés. Mmh. Pour moi, vraiment, je crois que c'est seulement ça que nous faisons. Par contre, ceux qui sont déjà dans des écoles de formation et qui ont certaines connaissances, je crois qu'eux, ils seront peut-être en mesure de s'orienter ou bien d'avoir leur propre idée. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi dans la vie pour moi, c'est parce qu'ils n'ont pas des personnes pour leur donner la bonne information et de les encadrer et de les accompagner. Donc moi, mon but, mon souci actuellement, je crois, c'est ça. J'habite dans un quartier populaire et je continue toujours à habiter dans ce quartier. Parce que moi, vraiment, c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais. Donc moi, c'est mon souci, c'est quoi? C'est ces personnes, parce que je l'ai déjà commencé. C'est ce que j'ai fait actuellement. Tous les samedis, j'ai recoupé les enfants, environ une dizaine d'enfants que je forme, que j'explique le fonctionnement des machines, bien que je n'ai pas encore une machine. Mais je leur explique des logiciels. Bon, quelques ordi qui sont là-bas chez moi, des ordi recyclés, que je leur montre comment ils puissent utiliser les machines et comprendre le fonctionnement de ces machines. Donc, pour le moment, c'est ça que j'ai fait. Raison pour laquelle là, j'ai cherché une machine, une imprimante 3D, pour au moins pouvoir avoir plus de temps avec eux. Parce qu'en fait, les enfants aussi, là, vraiment, c'est mes amis et ils m'aiment beaucoup, quoi. Ils me disent toujours « pense » parce qu'en fait, je suis leur oncle, disons. Ils ont l'âge de mes neveux, hein, bien que je n'ai pas encore de fils, mais c'est ça, quoi. Donc, mon but, c'est ces enfants de bas âge qui ont entre 4 et 15 ans et les femmes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de formation, essayer de les former. Vraiment, c'est ça mes deux objectifs et mes deux soucis.
Wow. C'est ça. Très beau. Merci beaucoup, Manu. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose.
Bon, rajouter quelque chose, c'est seulement peut-être remercier, hein, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir peut-être se déplacer et de pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Donc, moi, si j'ai, exemple, la chance de me déplacer ou de me présenter avec quelqu'un, ou peut-être je pourrais dire quelque chose qui pourra peut-être avoir une portée ou bien qui pourrait changer quelque chose, là, vraiment, ça me fait plaisir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Et j'ai vu plein de gens qui en ont besoin. Plein de gens qui ont besoin d'être accompagnés. Plein de gens qui ont besoin de pouvoir bénéficier de certaines actions. Et beaucoup de financements qui viennent pratiquement surtout en Afrique. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas. Donc moi, si je me déplace quelque part, je crois que je pourrais peut-être être leur ambassadeur. C'est-à-dire, en disant ce qui ne marche pas, peut-être pas en critique ou bien peut-être faire la politique, mais au moins en informant certaines personnes pour qu'ils sachent ce qui se passe. Donc pour moi, c'est seulement ça. Bon, j'ai pas les moyens, mais un jour, peut-être si j'aurai les moyens, je ne me contenterai plus d'être là à parler, mais je vais essayer d'agir. Mais comme je n'ai pas les moyens pour le moment, je ne pourrai pas agir. Peut-être je ne pourrai que parler. Je ne pourrai peut-être encadrer qu'une dizaine de garçons, peut-être quelques filles, mais pour le moment, c'est tout ce que je pourrais faire.
Ouais.
Donc, je vous remercie.
Oui, moi je te remercie.
Et je m'excuse, hein, parce qu'en fait, des fois, quand je parle avec certaines choses, des fois, ça...